Chapitre 40. Dans le tourbillon de vif argent de la Slif, Nietzsche s'éloignait inexorablement d'Orogang. Des jours durant, pressée de partir, elle avait en vain imploré la créature de l'emmener. Mais là, c'était impossible, pas au milieu d'une bataille. Si elle n'était pas là pour aider ceux qui se cachent, Nietzsche ne se faisait aucune illusion. Vainqueur au bout du compte, les soldats d'Outros prendraient la capitale et ils tueraient tout le monde. Mais la Slif s'était emparée de la magicienne, et il n'y avait rien à faire. Se débattre? Pourquoi pas, même si ça n'avait aucun effet. Le vif argent, en s'insinuant dans la bouche et le nez de Nietzsche, se frayait un chemin jusqu'à ses poumons. Elle ne voulait pas s'en aller. Mais sa résistance revenait à taper du pied telle une enfant confrontée à un adulte. Comme d'habitude dans la Slif, Nietzsche perdit tout sens du temps et des distances. Une poupée impuissante, et pas entre des mains amicales. Cette Slif, en effet, n'avait rien de bienveillant. Lors de chaque voyage, la magicienne avait eu le sentiment prolongé d'étouffer et de se noyer. Là, elle aurait juré que son corps allait exploser. Après un temps indéterminé, mais probablement très court, le retour dans le monde réel n'eut rien d'agréable ni de doux. Dans le petit temple de Serimundi où se trouvait son puits, la Slif recracha sa passagère comme si elle lui trouvait décidément un goût insupportable. S'écrasant sur le sol, Nietzsche expulsa le vif argent qui restait dans son système respiratoire et dans sa bouche. Une fois à genoux, elle foudroya du regard le puits d'où dépassait le visage de vif argent.
« Pourquoi m'as-tu emmené? Je ne voulais pas voyager. »
Orogang était à l'autre bout de l'ancien monde. Même sans leur chef qui semblait s'être volatilisé, 1000 soldats entraînés ne feraient qu'une bouchée des pauvres spectres. Et qu'adviendrait-il de Mara et des autres panthères? Un massacre, voilà ce qu'avait provoqué la Slif.
Je t'ai appelé sans cesse et tu n'as jamais répondu. Pourquoi aujourd'hui, alors qu'on a besoin de moi, Orogang?
La Slif secoua la tête furieuse. Ses cheveux de vif argent ébranlèrent comme la lanière d'un fouet. Les pommettes hautes et la bouche fine, elle devait être splendide de son vivant. Là, elle ressemblait à une mégère maléfique.
Parce que telle était ma volonté. C'est tout. Je ne voulais plus t'avoir en moi ni te servir. Tu es une traîtresse et tu m'as menti.
Nietzsche se remit debout et affronta la Slif sans frémir.
J'ai été loyal à ma cause et la tienne est obsolète, un désastre qui remonte à plusieurs millénaires.
Tant que j'existerai, ma cause survivra. Ce que tu en dis n'a aucune importance. À présent, raconte-moi ce que je dois savoir. Comme tu me l'as demandé, je t'ai conduite à Serimundi, alors parle-moi de Sulacan.
Puisant du vif argent dans le puits, la Slif ajoutait de la substance à sa partie émergée. Elle en devenait plus menaçante, ses cheveux évoquant désormais des tentacules capables d'étrangler quelqu'un. Devant ce spectacle, Nietzsche songea à la statue géante qui se dressait à l'entrée du port de Serimundi. Mère la mer, protectrice de l'ancien monde. Une puissante mais bienveillante déesse que beaucoup de gens vénéraient tout au long de la côte. Mère la mer était le portrait craché de la Slif. Sans aucun doute, dans un lointain passé, un habitant avait dû voir la fidèle servante de Sulacan. La prenant pour une divinité, ce benêt avait fondé une religion à partir d'un grotesque malentendu. Informé que la Slif n'était qu'une humaine modifiée par d'antiques sorciers, Nietzsche ne risquait pas de tomber dans le panneau.
« Voilà ce que je sais sur Sulacan. Je l'ai combattu et j'ai contribué à sa chute, mais c'est le seigneur Ral qui l'a vaincu pour de bon. »
Abattue, la Slif écouta Nietzsche lui raconter ce qu'elle connaissait sur Sulacan. 3000 ans plus tôt, l'empereur, à la tête de l'Alliance des Peuples, avait ordonné à ses inventeurs de créer des armes et des combattants capables d'écraser le Nouveau Monde. Finalement vaincu, ses hordes enfermées derrière une haute muraille, il avait perdu la vie. Au fil du récit, la femme de vif argent se rembrunit, la tête basse et ce qu'on voyait de ses épaules tristement voûtées. Soudain, elle reprit du poil de la bête et demanda
« Si Sulacan est mort il y a 3000 ans, comment a-t-il pu revenir? Et pourquoi a-t-il encore perdu ?»
Avec l'aide d'un traître nommé Anis Ark, Sulacan a été ramené à la vie par le sang de Richard Rall. Il commandait une immense armée de demi-humains privés d'âme, mais tous furent balayés, oui, jusqu'au dernier.
Contrainte de tenir parole, Nietzsche résuma la récente guerre qui avait commencé dans les Terres Noires. Alors que les soldats d'Aran s'étaient chargés d'affronter les hordes de demi-humains, Richard avait fini par tuer Sulakhan dans les entrailles du Jardin de la Vie, au cœur du Palais du Peuple. Quand elle en arriva à la fin de l'histoire, Nietzsche ne put empêcher sa voix de vibrer de satisfaction. Sulakhan fut vaincu et renvoyé dans le royaume des morts. Richard Rahl, un sorcier de guerre, a altéré les fondations même du monde. Pour ça, il a utilisé le langage de la création. Face à une telle arme, Sulakhan ne faisait pas le poids. Plus qu'une défaite, ce fut pour lui une déroute. Requinqué par ces évocations jubilatoires, Nietzsche croisa fièrement les bras.
Sulakhan est mort. Définitivement, cette fois. Ta cause n'existe plus, Slif.
Pour punir la créature de ce qu'elle venait de lui faire, Nietzsche n'avait qu'une arme, ses terribles nouvelles.
Ta cause est l'être morte, mais en réalité il en a toujours été ainsi. Depuis le début, le plan de Sulakhan était voué à l'échec. De sa folie, tu es le dernier vestige.
La Slif tressaillit comme si la réalité impitoyable lui donnait le fouet. Son visage se tordit, s'allongea, se contracta, puis sa bouche s'ouvrit sur un cri inhumain.
« Tu mens !»
Nietzsche resta de marbre.
« C'est faux et tu le sais très bien. La vérité, tu l'entends dans ma voix. Il y a des millénaires, tu as sacrifié ta vie pour rien. »
Le vif argent brilla plus intensément comme s'il chauffait de l'intérieur, puis l'apparence de la sublime créature changea. Une plus grande partie de son corps émergea du puits et grossit, les bras se transformant en tentacules terminés par des griffes. Pour éviter un premier coup, Nietzsche plongea en arrière et se reçut souplement sur le sol. Mais la Slif, devenue un monstre à mi-chemin entre succube et bête sauvage, se dota de deux nouveaux tentacules meurtriers.
« Voyage avec moi !»
cria-t-elle.
« Et n'en reviens jamais !»
Les tentacules s'enroulèrent autour du torse de Nietzsche.
« Je vais t'attirer en moi et t'y garder jusqu'à la fin des temps. Noyé, les poumons explosés, tu seras aussi morte que mon maître sous la canne. »
Ce qui avait été un bras fit mine de s'enrouler autour de la taille de Nietzsche. Aussitôt, celle-ci lança un sortilège qui bombarda de chaleur la créature jusqu'à ce qu'elle bouillonne comme du métal dans un creuset. Se libérant des tentacules, la magicienne se glissa sous le bras géant et battit en retraite. Sur ses bras, la peau brûlée rougissait et de la fumée montait du tissu de sa robe noire. Quand elle fut assez loin du puits, Nietzsche invoqua du feu de sorcier et frappa la Slif. Mais un rideau de vif argent se dressa soudain devant les flammes, les enveloppa et les absorba. Contre toute attente, l'invincible feu essuya sa première défaite. Nietzsche recula jusqu'à ce que son dos touche une des colonnes du temple. Les tentacules s'allongèrent, souples comme des reptiles et durs comme de l'acier, mais elle esquiva de nouveau. Le premier tentacule percuta la colonne, la fissurant. Le deuxième zébra l'air, pulvérisant une statuette de Merlamère. Désormais hérissés de piques, les tentacules continuèrent de s'acharner sur leur proie. Résolu à en finir ici et maintenant, Nietzsche déchaîna des éclairs qui parvinrent à traverser le vif argent. Aussitôt reformé, un tentacule s'enroula sur le bras de la magicienne, l'enveloppant plus étroitement qu'un fer, et un autre s'attaqua à sa taille, lacérant si fort qu'elle eut du mal à respirer. Ensemble, les extensions de la Slif tirèrent leur proie vers le puits.
« Dans mes profondeurs, tu ne respireras plus jamais !»
Quoi que lui inflige Nietzsche, la Slif réussissait à réparer les dégâts et à changer de forme. Pour vaincre Ava et Ruva, la magicienne avait puisé dans ses réserves, déjà bien diminuées par son combat contre les Is. En d'autres termes, elle était au bout du rouleau, mais pour survivre, elle allait devoir faire avec. Consciente de n'avoir plus qu'une carte à jouer, sa dernière chance, elle hésita, refusant de la gaspiller. Alors que les tentacules la tiraient toujours vers le puits, elle songea à une nouvelle tactique et décida de tenter le tout pour le tout. Si ça fonctionnait, elle se libérerait de ce monstre. Sinon... Utilisant une petite partie de ce qui lui restait de magie pour faire trembler le sol, elle concentra la plus grande sur l'éclair le plus puissant et dévastateur qu'elle ait jamais invoqué. Mais elle ne visa pas la Slif. Au contraire, elle bombarda la margelle autour de l'ouverture avec l'idée de l'obstruer. Fragmentant son éclair, elle fit en sorte que la poussée venant de plusieurs directions propulse toutes les pierres de l'extérieur du puits vers l'intérieur. La margelle s'effondra, entraînant avec elle une partie du sol du temple, affaiblie par les secousses telluriques de Nietzsche. Quand tout ce qui était autour d'elle s'écroula, la Slif hurla à la mort. Dans leur chute, les pierres sectionnèrent trois tentacules qui tombèrent sur le sol de plus en plus fissurés. Blessé et terrorisé, Laslif chercha refuge dans les profondeurs de ses tunnels, incapable de dire si le processus d'effondrement se propagerait tout au long ou non. Nietzsche approcha le souffle court et constata ravi que l'ouverture, en tout cas, était bel et bien bouchée. Avec presque tout ce qui lui restait de pouvoir, elle fit fusionner les blocs coincés dans la gueule pour que le bouchon tienne bien en place. Épuisée, elle tomba à genoux, mais sa tâche n'était pas achevée. Les mains levées, elle lança un sort qui remodela les pierres encore instables, leur donnant la forme requise pour que le puits soit scellé à tout jamais. Pas loin de l'évanouissement, Nietzsche se redressa et sentit une sorte de serpent froid et métallique saisir sa cheville comme la main d'un agonisant. D'un coup de pied, elle se dégagea, puis regarda les tentacules agoniser comme des serpents sans tête. Décolorés et sans force, ils ne tardèrent pas à s'immobiliser, transformés en un mucus noir qui s'infiltrait dans les fissures du sol. Un peu mieux assuré sur ses jambes, Nietzsche inspira à fond. Peu à peu, la lumière du jour envahissait le temple de Mère-la-Mère. Comme elle le désirait, Nietzsche était de retour à Sérimundi. Mais ça lui laissait un goût amer dans la bouche parce qu'elle avait abandonné Mra et ceux qui se cachent. Bien entendu, impossible de retourner à Orogang à temps pour les aider. Le puits de Laslif était scellé et, de toute façon, elle ne voyagerait plus jamais avec cette créature-là. Était-elle morte, cette abomination, comme Nietzsche l'aurait voulu? Hélas, c'était impossible à dire. Quoi qu'il en soit, la magicienne était coincée à Sérimundi. Une ville où il y avait encore une guerre à préparer. Entendant des sanglots et des soupirs dans son dos, Nietzsche se retourna, prête pour une nouvelle bataille. Sa robe noire en lambeaux et les cheveux poisseux de sueur, elle restait la maîtresse de la mort, capable de vaincre tout adversaire qui se présenterait à elle. Cinq fidèles morts de peur se tenaient à l'extérieur du temple. Venus apporter des paniers de fruits et de poissons frais à leur déesse, comme tous les matins sans doute, ils avaient tout lâché en découvrant le duel entre une magicienne en robe noire et une créature de vif argent. Les yeux ronds, les cinq malheureux fixaient le puits scellé.
« Mère la mère !» sanglota un homme. « Tu as tué Mère la mère !»«
Remettez-vous, elle était loin d'être ce que vous pensez, votre déesse !»
Nietzsche retrouva d'instinct le ton autoritaire de la maîtresse de la mort.
« Bon, conduisez-moi au maître du port. »